Voilà, nous allons lire dans Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Au verset 12. Genèse 40, 12. Il est écrit ceci. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les trois sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Et au verset 20, c'est écrit, « Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. » Voilà, nous voulons parler de cette façon de faire de Dieu où il attend que nous le laissions vraiment agir à 100% lui seul. Et où il veut nous dire, il n'a pas besoin de notre aide. Parce que dans notre fonctionnement avec Dieu, nous voulons souvent l'aider en faisant certains actes pour accélérer la venue de ses promesses, l'accomplissement de ses promesses, l'accomplissement de sa parole. Et il y a plusieurs cas comme ça. Et là, Joseph, qui était quelqu'un qui s'attendait à Dieu, à un moment donné, il a été fatigué. Ça faisait des années qu'il était en souffrance. Ça faisait des années qu'il attendait de vivre les promesses, les visions qu'il avait eues de Dieu. Ça faisait des années. Et Dieu, malgré le fait que il n'accomplissait pas totalement ce que Joseph attendait, Dieu faisait quand même des signes. C'est comme ça que notre vie est faite aussi. Même si nous n'avons pas ce que nous attendons fortement dans notre cœur, il y a des signes de la présence du Seigneur. Il y a des exploits que le Seigneur fait qui nous montrent qu'il est là quand même. Mais il y a des moments où nous voulons accélérer quand même l'accomplissement de certaines choses. Et nous souffrons. Nous regardons le temps qui est déjà passé. Et on a l'impression, une certaine impression d'inutilité. Et on a comme l'impression que c'est peut-être que c'est nous qui échouons. Hein? On met Dieu à côté, on dit c'est pas la faute de Dieu. Certainement, il y a mon erreur à moi quelque part. Et ou alors, on se met dans le trouble, on commence à douter de Dieu même, lui-même aussi. Et aujourd'hui, je veux nous redire encore, apprenons à laisser Dieu faire. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça que doivent se faire les choses. Vous savez, quand Jésus se trouve devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, « Ah, je ne peux pas te toucher, Seigneur. » Jean-Baptiste disait que celui qui venait après lui, il n'a même pas l'autorité de lui délier les sandales. Et Jésus demande maintenant ce que Jean-Baptiste le baptise. Jean-Baptiste dit non. Non, je ne peux pas me permettre une telle chose. Mais Jésus lui dit, laisse faire. C'est ainsi que les choses doivent se faire. C'est comme ça. Moi, le Fils de Dieu, je dois me faire baptiser par toi. Je dois me laisser faire. Jean-Baptiste était étonné, mais c'est comme ça que Dieu agit avec nous tous. Il y a des choses où on dira, mais non, logiquement, je peux régler ça, je peux faire ceci. Mais tu sens bien qu'il y a un certain frein. Et aujourd'hui, le frein, c'est quoi? On va attribuer ça au diable. On oublie que Dieu est tout puissant. Il y a un frein. On sent que il y a comme une pression sur nous, charnelle. Au lieu, en ce moment-là, de dire, je m'arrête pour laisser Dieu lui-même faire, on force les choses. Et en forçant, on sort de la volonté de Dieu. Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Les choses sont ainsi. Pour le moment, je dois être comme inférieur à toi. C'est comme ça. Et nous avons honte d'avoir l'impression, nous en tant qu'enfants de Dieu, d'être inférieurs. C'est-à-dire, c'est les opposants. C'est les gens qui sont contre Dieu, c'est les gens qui ne sont pas vraiment dans la volonté de Dieu, qui semblent réussir. On a honte. Alors on veut forcer une certaine réussite. Et on sort de la parole de Dieu. C'est ça qui n'est pas bon. Je reconnais que ce n'est pas facile. Des années en prison pour Joseph. Des années étant esclave. À un moment on dit, il faut que cela s'arrête. Et une occasion qui se présente, une occasion en or. Dieu lui donne la capacité d'expliquer les songes et il donne une bonne explication et il dit à l'échanson, mais quand tu sortiras, pense à moi. Il demande de l'aide à l'homme. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire qu'on ne doit jamais demander de l'aide à l'homme. Mais nous devons demander de l'aide que quand Dieu veut qu'on le fasse. Mais pas parce que nous pensons que l'homme, c'est lui qui peut résoudre notre problème. La preuve, il a demandé de l'aide, ce n'est jamais venu. Il est écrit, cet homme-là a oublié Joseph. Est-ce qu'on peut oublier un tel acte? On ne peut pas oublier. Mais c'est Dieu qui a fait oublier pour apprendre, pour nous apprendre. Que l'aide auprès de l'homme n'est souhaitable que si l'Esprit te le dit. Pas parce que tu t'imagines que l'homme a la solution dans sa main. Non, la solution de tout se trouve dans la main du Seigneur. Il a placé des hommes, c'est vrai. Mais nous devons nous adresser à ces hommes que sous l'autorisation du Seigneur, comme étant un processus du Seigneur, mais pas comme étant la solution, de comme Esther est partie s'adresser au roi, c'était pas comme si le roi détenait la solution pour Israël, c'est l'Éternel qui détenait, c'est ce que Mardoché lui a dit. Mardoché lui a dit, la délivrance d'Israël viendra de l'Éternel. Ne pense pas que c'est toi qui tiens la délivrance d'Israël entre tes mains. Tu es dans un processus. Ce processus-là, c'est le processus de Dieu. Si tu adhères à ce processus, nous vivrons la délivrance. Mais si tu refuses, Dieu fera autrement. Ce n'est pas le roi qui est notre délivrance, mais c'est le processus de Dieu. Quand on saisit que c'est le processus de Dieu, oui, on peut s'adresser à l'homme. Mais lorsque dans notre arrière-pensée, dans nos arrière-pensées, il y a comme une sorte d'image que c'est l'homme qui est la solution. Dieu ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas de ça. Et il est écrit, cet homme a oublié Joseph. Pourtant, humainement parlant, entre nous, c'était lui la solution. Parce qu'il a été élevé auprès du roi. Il suffisait qu'il parle. Il allait servir du vin au roi. On l'a élevé un jour de fête, c'est-à-dire devant d'autres personnes. Donc, il était un homme élevé. Mais non. Il est écrit, il a oublié. Et parfois, nous avons mal de voir certaines choses traîner. Et nous voulons donner un coup de pouce à Dieu. Aujourd'hui, apprenons, bien-aimés, que nous n'avons pas donné de coup de pouce à Dieu. Comme Joseph a voulu donner un coup de pouce à Dieu en disant, ben, Monsieur les chansons, en sortant d'ici, parlez de moi au roi. Parlez en ma faveur. Bien-aimé, Joseph devait avoir des gens qui étaient témoins de ses exploits. Imaginez que Joseph n'ait pas fait cette faveur, demandé cette faveur-là à les chansons. Mais les gens qui l'entourent disent, mais attends Joseph, tu exagères avec ton Dieu. Cet homme-là, c'est toi qui l'as aidé. Où est le mal qu'il t'aide en retour? Qu'est-ce que les gens n'allaient pas le dire? Et parfois, certains coups de pouce qu'on veut donner à Dieu, c'est parce qu'on se dit, mais je veux justifier comment mon silence auprès des autres. On se dit, aïe, si je ne fais rien, les autres vont me traiter d'orgueilleux. Les autres vont me traiter d'inconscient. Même toi-même, tu vas te traiter d'irresponsable. Mais oui, il y a une occasion en or. Agis pour ta délivrance. Agis pour ton salut. Pourquoi tu ne fais rien? Et il y a des moments, parfois, on est provoqué, on est piqué par des gens. On arrive quelque part, quelqu'un dit une phrase. Et charnellement, il y a un truc qui te dit, ah, tu n'as pas répondu. Tu as eu honte du Seigneur. Mais peut-être ce n'est pas ça. C'est peut-être que tu as fait confiance en Dieu. Mais la chair veut que tu aides Dieu. Hein? Parce que, bien-aimé, l'Esprit Saint est tout puissant. S'il veut qu'on dise quelque chose, il va nous embêter, on va le dire. Il va nous pousser à le dire. Mais ne cherchons pas à aider Dieu par nos raisonnements. Quand on commence à entendre beaucoup de raisonnements qui te poussent à faire ceci ou cela, sachons bien qu'il n'y a pas Dieu dans cette affaire-là. Dieu ne veut pas que la chair l'aide. Il veut faire tout seul. C'est ce qu'on a lu mardi dans Exode chapitre 6. Il a dit, c'est moi qui ai vu vos souffrances. C'est moi qui ai entendu vos cris. Et moi, je vais obliger Pharaon à vous laisser partir. Je vous amènerai. Il disait toujours, je. Mais nous, on veut participer à ce jeu-là pour notre délivrance ou bien pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Non, nous ne pouvons que adhérer à un processus que Dieu lui-même a déjà dessiné. Mais ne pensons pas que nous pouvons aider Dieu. C'est ça ma prédication. Ne pensons pas que nous pouvons l'aider. Comprenons qu'il y a des moments, il y a des activités, il y a des situations dans lesquelles il va nous dire, attends, ne bouge pas, attends ce que moi je vais faire, attends. Nous avons l'exemple de celui qui n'a pas pu attendre. Saül, on lui a dit attends 7 jours. Il a attendu 7 jours. Mais le 7e jour, les soldats s'en allaient. Il a dit, mais comment on va faire? Je dois aider Dieu. Parce que c'est la bataille de l'Éternel. Israël, c'est le pays de Dieu. Maintenant, toi, tu veux défendre Israël plus que Dieu lui-même. Dieu dit, voilà. Eh bien, je te rejette, Saül. Mais bien-aimé, vous savez, par la suite, dans 1 Samuel 15, ce que je viens de vous raconter, c'est 1 Samuel 13. Dans 1 Samuel 15, Dieu donne un second ordre à Saül. Il lui dit, tu tueras tous les beaux animaux que tu auras dans ton butin pendant la guerre. Tu vas les tuer et tu vas éliminer les hommes. Tu élimines tout. Et Saül n'a pas obéi. Mais tout commence comment? Tout commence lorsque Dieu te demande de ne rien faire. Tu fais. Un jour, il te demandera de faire, tu ne feras pas. Au début, il te demande d'attendre, de le laisser faire. Mais il y a des raisonnements qui tournent dans la tête. Ah, ça serait comme si je suis irresponsable. Ça serait comme si je suis poltron. Mais logiquement, nous aussi, on doit faire quelque chose. Dieu n'a jamais dit que nous pouvons participer à notre délivrance. Il dit que le salut vient de lui. Il dit que c'est son œuvre. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Seigneur n'a jamais dit que l'homme peut l'aider. Il utilise l'homme, mais l'homme ne l'aide pas. Et nous, on va vouloir donner un coup de pouce à Dieu, dire, ah non, ben, ça ne marche pas. je vais quand même faire un petit mensonge. Ça n'avance pas. Je vais appeler un cousin qui travaille au ministère de télécommunications, au ministère du logement, au ministère des Affaires étrangères pour régler la chose. Je ne dis pas, bien-aimé, qu'on ne peut pas faire ça. Je dis tout simplement qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit le faire que quand ça vient du Saint-Esprit, quand c'est le processus de Dieu, mais pas parce qu'on est fatigué d'attendre l'action de Dieu, parce qu'on est désespéré d'attendre le secours de Dieu et on se dit, un cousin peut me débloquer ça. C'est comme si Dieu n'a pas pu débloquer, un cousin va me débloquer. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne dit pas que Dieu n'a pas pu débloquer, un cousin va me débloquer. On se dit, mais non, Dieu va l'utiliser. Mais c'est toi qui as décidé que Dieu va l'utiliser. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Non. Il y a des moments où le Seigneur nous dira, le secours ne vient que de moi. Tu ne bouges pas. Tu ne fais rien. Le secours vient de moi. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup de gens sont sortis de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas voulu attendre le secours qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans Lamentations 3, 26? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence. Et ça fait mal parce qu'on se sent inutile. Ça fait mal parce que on se sent infructueux. Il n'y a pas de fruit. Et Dieu veut que j'attende. Comme beaucoup disent, est-ce que ça tombera du ciel? Mais oui, la Bible dit que ça tombera du ciel. La Bible le dit. Le secours vient. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça viendra d'en haut. Il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient d'en haut. La Bible le dit. Donc quand les gens disent, mais toi tu penses que ça viendra d'où? Ça tombera du ciel. Effectivement, Dieu veut qu'on s'habitue au fait que ça tombera du ciel. Quand nous pouvons utiliser les hommes, c'est quand Dieu l'a décidé, quand Dieu nous y a poussé. Mais on ne doit pas le faire de nous-mêmes. On ne doit pas aussi, par l'impatience, par la désespérance, on est fatigué d'attendre. On se dit, mais non, il peut débloquer. J'ouvre sa porte. Ah, si vraiment on est de Dieu, d'ailleurs, ça ne va pas marcher. C'était le cas de Joseph. Ça n'a pas marché. Parce qu'il était vraiment de Dieu. Vous savez, quand on est de Dieu, Dieu ne permettra pas que quelqu'un vienne prendre sa gloire chez toi. Tu es son territoire. C'est lui qui va prendre sa gloire. Parce que tu es à lui. Et il va bloquer les chemins pour que sa gloire chez toi soit totale. Il est écrit, il a oublié Joseph. Il fallait que Joseph comprenne qu'il est la gloire de Dieu et Dieu ne laissera personne prendre gloire dans la vie de Joseph. Il fallait que jusqu'au bout, Dieu ait le dernier mot dans la vie de Joseph. Vous savez, le débat qu'il y a eu dans la vie de Job, c'est toujours le même problème. C'est que tu te retrouves dans une situation difficile et tu veux tout résoudre. D'où me vient cette situation? Quel péché j'ai commis? C'est là que le débat commence avec ses amis. Parce que Job veut résoudre le problème. Comment je peux tout perdre? Je perds mes enfants, je perds tout ça. D'où vient le problème? Et dans la quête de solution, on fait des erreurs. C'est là que Job a fait des erreurs. Dans la quête de solution. Mais Job a oublié, comme nous oublions que, mais si je suis chrétien, qui m'a fait grâce? C'est Dieu. Est-ce que moi j'ai confectionné ma conversion? Non. Est-ce que j'ai tissé mon salut? Non. Ah, c'est que, comme pour moi, Dieu peut faire pour 1000 personnes. Je vais attendre. Est-ce que, en me réveillant aujourd'hui, je me suis réveillé tout seul? Non. C'est Dieu qui m'a réveillé. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Parce qu'on oublie même qu'on a. Quand on s'endort, on ne sait pas. Et d'un coup, on se réveille. C'est comme si on était mort. Quelqu'un nous réveille. Au lieu de se dire, mais s'il m'a réveillé, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, la vie vaut plus que le vêtement. S'il m'a donné la vie, Mais le vêtement, c'est quoi pour lui? S'il m'a donné la vie, la maison, c'est quoi pour lui? Et on attend, ça ne vient pas. On oublie que le plus important nous a été déjà donné. Si le plus important nous a été donné, le reste se fera. Mais nous avons besoin d'apprendre à prier et à rester dans l'attente. À prier parce que dans la prière, nous confessons que Dieu est grand. Dans la prière, nous confessons que les promesses de Dieu s'accompliront. Dans la prière, nous restons unis au Seigneur. Nous avons à apprendre à être, à marcher avec lui. Le Seigneur veut nous rapprocher de lui. Il nous dit dans Osée 6, « Je t'amènerai dans le désert afin que tu apprennes. Tu m'appelles plus patron, mais que tu m'appelles ton mari. » Voilà, donc la relation profonde, le Seigneur permettra que les choses n'avancent pas afin qu'on le connaisse. C'est pourquoi Job à la fin a dit, avant j'entendais parler de toi, maintenant je te vois, je te connais. Mais il fallait qu'il meure, il fallait qu'il laisse faire. Et j'en conviens, ce n'est pas facile pour la chair de laisser faire. On se sent inutile, irresponsable. On se sent... comme on dit aujourd'hui, je cherche un perdant. En anglais, on dit loser. Donc, tu as l'impression que tu es un perdant. Ça fait des années. Beaucoup même te disent, oui, mais ça fait des années que tu as cette position-là de vérité. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Tu restes sans argent. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Ça fait des années, c'est comme les gens qui se moquent de nous en disant, mais ça fait des années qu'on dit que Jésus revient. Où est-il? Ça fait des années, bien-aimé, la promesse s'accomplira. Le Seigneur est fidèle et il permet cela afin qu'on apprenne du fond de nos cœurs que Dieu est grand. Que ça vienne du fond du cœur, que ça ne soit pas en surface. Vous savez, c'est une lutte difficile, la lutte de Gethsémané. Tu es là, Jésus-Christ transpire. Est-ce que je dois me laisser faire? Vous savez que Jésus-Christ pouvait dire, boum, non, je ne vais plus à la croix. Mais il fallait laisser faire. La transpiration vient de là, Jésus n'avait pas peur d'être tapé. Le problème, le combat que Jésus menait, je me laisse faire. C'est le combat de l'homme. Laissez faire Dieu. C'est un combat qui te fait transpirer. Il y a la honte qui est au-dessus de toi. Ah! Où est ton Dieu? Mais tu dois quand même laisser faire. Tu dois continuer à laisser les gens dire que tu es un perdant, un loser. Les gens vont continuer à dire, mais tu es responsable. Tes enfants, ils te regardent. Où est ton Dieu? Et là, tu dois te laisser faire. Jésus a transpiré. C'est le combat de la chair. La chair se détruisait dans ce temps-là que Jésus priait, à point que le sang sortait. Parce que c'est la mort de l'homme d'en arriver là à dire bon. Vous savez, c'est comme si le gâteau, il est là, tu as faim, mais tu ne dois pas manger. Tu regardes. Et en plus, c'est ton gâteau à toi. Mais tu ne dois pas manger. Et toutes sortes de raisonnements passent par la tête. Est-ce que notre Dieu est véritable? Est-ce que notre Dieu est tout-puissant? Et c'est le débat que Job menait avec ses amis. Ah oui, Dieu ceci, Dieu cela. Le débat, Job et ses amis. Réapprenons que le Seigneur est tout-puissant. Réapprenons. Dans ces moments-là, luttons avec Dieu. Jacob a lutté jusqu'au matin. Combat difficile. Est-ce que je dois laisser faire? Jacob avait le choix. Il pouvait éviter Ésaü. Mais il devait obéir à la voix du Saint-Esprit qui dit, il faut rencontrer ton frère. Mais oui, mais il y a le risque qu'il me tue. Et il a lutté avec cette affaire toute la nuit. Et le matin, il dit, voilà, je ne lâche pas Dieu, je ferai la volonté de Dieu. Il dit, je te garde jusqu'à ce que tu me bénisses. Voilà ce qu'il dit à l'ange. Bien-aimé, c'est ce combat-là que nous menons. Les gens de vérité mènent ce combat-là. Où tu es là, tu dis, mais tout est bon pour que je réunisse Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit à Job. Réunis Dieu et meurs. Mais disons-nous, bien-aimés, dans ces temps difficiles-là, ça servira à quoi que je réunis Dieu? Ça servira à quoi que ma foi baisse? Parce que dans ces temps-là, le diable te dit, arrête, va dans le monde, vis comme tout le monde regarde. Maintenant, posons-nous la question, ça servira à quoi que je retourne dans le monde? Je gagnerai quoi? Je m'amuserai, mais est-ce que je serai garanti qu'un accident ne m'arrive? Il y aurait la garantie que j'aurai pas d'accident? Est-ce qu'il y aurait la garantie que je ne mourrai pas dans mes bêtises? Qui va me garantir qu'en retournant dans le monde, j'en sortirai vainqueur? Il n'y a pas de garantie. Au contraire, c'est la voie de la perdition. C'est ce que le diable dit, mais où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé, c'est une lutte difficile. Mais le Seigneur est vivant. Il va venir. Il a promis des choses pour chacun de nous. Ces choses sont dans la Bible. Il y a des gens qui vont nous dire, mais tu attends quoi? Est-ce que Dieu t'a parlé? Bien-aimé, Dieu nous a parlé dans sa parole. À nous tous. Il nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et lui ne donne pas d'ordre qui ne puisse être accompli. S'il donne un ordre, ça peut être accompli. Et les gens vont dire, oui, mais ils vont trouver des contre-promesses selon leur interprétation pour t'empêcher de croire à ce que Dieu attend. C'est ainsi que certains conseillers ont dû dire à Saül, les gens s'en vont. Toi, tu penses que Dieu peut laisser que les gens s'en aillent? Fais le sacrifice, allons. Et Saül a fait la bêtise. Il a fait alors qu'il fallait attendre. Et les gens vont dire, est-ce que tu penses que Dieu ne... Bien-aimés, n'écoutons pas ça. Dieu est capable de se défendre tout seul. Dieu est capable de lutter tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Nous ne sommes que dans son processus, mais nous ne sommes pas indispensables. Et on se dit, mais non, c'est mon temps de faire ceci, c'est mon temps de faire... Mais non, le Seigneur, si c'est son temps, il va s'imposer et tu feras les choses. Bien-aimé, nous avons un grand exemple. Moïse ne voulait-il pas libérer son peuple? Il s'est battu physiquement. Mais est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Qui a fui? C'est lui. Bien-aimé, ne nous battons pas physiquement. Vous savez combien de fois, quand je suis les événements politiques en Afrique, j'ai envie, avec quelques personnes, de faire un mouvement. Je dis, Seigneur, tu m'as sorti de ça. Maintenant, notre stratégie à nous, c'est la prière. Ça fait mal de voir tant d'injustices tuer des millions de personnes. On a envie de sortir. Pas forcément sortir de choses de Dieu, mais mettre ça un peu de côté, dire non. On va faire un mouvement, on va dénoncer ceci, on va faire cela, mais non. Le Seigneur va revenir toujours pour dire, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Disons-nous ceci, si moi j'ai été sauvé, Dieu peut sauver tout le monde. Donc tous ceux qui veulent le salut des âmes, ne nous décourageons pas. Le Seigneur va agir. Les promesses sont claires. Il dit dans Jean 4, regardez la moisson blanchie. Continuons à prier, à le chercher en profondeur. Il va nous expliquer des choses. Bien-aimés, vous savez que nous, on a vu des cas où les gens, dans nos voyages, les gens disent, nous voulons te voir venir ici. Nous voulons que tu installes un groupe ici, une cellule ici. Et quand tu installes la cellule, ils ne viennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas construire, ils veulent que tout soit fait et ils viennent en clients. Quand nous désirons le changement, le salut des âmes, Dieu désire plus que nous, mais il connaît les hommes. Dans Jean chapitre 2, il est écrit que Jésus savait que les gens qui étaient là, ils venaient juste pour les miracles. Les gens, s'ils apprennent qu'on a guéri deux aveugles, on a ressuscité un mort, un cancéreux a été guéri, ils viendront. Mais ils viendront pourquoi? Ils viendront pour les miracles. Est-ce que nous pourrions reconnaître les vrais défauts? Ça sera un combat de plus dans ce temps de la fin qui est difficile. Peut-être que le Seigneur veut nous faire avancer à la dure, en piochant durement, afin de construire d'abord un noyau fort, puissant, qui va être efficace pendant de longues années. Donc, durement, et ce sera plus simple pour nous de savoir que les gens qui se joignent à nous, ben, c'est des vrais, parce qu'ils se joignent à nous au moment où nous n'avons rien. Mais si les choses se passent peut-être telles que nous nous voulons, nous allons être submergés par des gens qui viennent par intérêt et être plus tard mangés par eux. Le Seigneur connaît tout. Faisons-lui confiance. Approchons-nous de lui. Continuons à espérer. Quand je dis qu'on doit laisser faire, pas dans un esprit de désespoir, dans un esprit de confiance. Mais il y a des moments où on perd cette confiance. Mais dans l'humiliation, dans la prière, dans le refus de sortir de la volonté de Dieu, du Seigneur, je perds des forces. Redonne-moi des forces. Je perds des forces pendant cette attente. Je perds des forces. Fais-moi revivre. Je perds des forces. Révèle-toi à moi. On n'est pas le premier à faire cette prière. Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Pourquoi Moïse a dit ça? Parce qu'il perdait des forces. C'est nous qui trouvons les gens, quand nous lisons, on a l'impression qu'ils étaient tout le temps bien. Jésus lui-même dit, du temps d'Élisée, il n'a guéri aucun lépreux en Israël. Il n'a guéri que Naaman, le lépreux, un Syrien. Donc, nous, dans notre imaginaire, c'est que Élisée passait son temps à guérir des lépreux. Pas du tout. Il faisait la volonté de Dieu. Quand Naaman arrive, Élisée dit à son serviteur, va le voir. Mais qui d'entre nous aurait laissé comme ça un général vient, un général du grand pays, du coin, et tu restes chez toi? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Il est orgueilleux. C'est ça. Mais toi, tu fais la volonté de Dieu. Bien-aimé, laissez faire, ce n'est pas facile. Quand Élisée reste chez lui, vous pensez qu'il est content, il est heureux. On ne sait pas. C'est perturbant de savoir qu'il y a un homme d'État, un général de la plus grande armée de l'époque, il est là. Et moi, Dieu ne m'empêche d'aller le voir. Et j'envoie un serviteur, il va lui dire faire ceci, cela. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. Et on obéit. Et Élisée a obéi. Bien-aimé, nous devons apprendre à obéir à Dieu, à le laisser faire à son goût. Et j'en conviens, ce n'est pas facile. Mais c'est comme ça que notre Seigneur a fait. Il s'est laissé faire baptiser par Jean-Baptiste. Moïse a tenté de libérer le peuple par lui-même. Ça n'a pas marché. Il est parti 40 ans. Il a même oublié qu'il devait aller libérer son peuple. Il est resté 40 ans comme ça. Et le Seigneur s'est souvenu. Bien-aimé, nulle part on dit que Moïse, en quittant l'Égypte, il a gardé le projet de revenir avec une troupe pour aller libérer son peuple. Cette troupe-là allait venir d'où? De Madian, un petit pays. Non, Moïse... C'est-à-dire que c'est pour nous dire que même quand toi tu vas oublier le projet de Dieu, les promesses de Dieu à l'effet de toutes les nations des disciples, Dieu lui n'a pas oublié. Un jour pendant que tu vas dormir, il va te réveiller, il va dire, je t'avais dit, c'est le moment, lève-toi. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Mais si je prêche, c'est parce que je sais que c'est difficile. À un certain moment, quand vient la pression, quand le temps est passé, c'est difficile au point qu'un homme pur comme Joseph a eu quand même à demander l'aide de l'homme. Mais Dieu dans sa bonté, c'est là que c'est le point le plus important. Dieu dans sa bonté va faire échouer l'aide de l'homme pour nous. Parce qu'il veut qu'on expérimente sa gloire. C'est pourquoi chaque fois que l'aide de l'homme n'a pas marché, acclamons le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur veut faire quelque chose de, par lui-même, de grand, de puissant, et il ne veut pas donner la gloire à l'homme. Mais je n'ai pas dit que l'homme ne peut pas nous aider. Cependant, quand il nous aide, c'est le processus de Dieu. Mais ce n'est pas parce que c'est lui notre secours, ça reste Dieu. Et donc, l'ami de Joseph l'a oublié. Ben, Dieu veut donner la gloire à lui-même. Il ne veut pas donner la gloire à l'homme. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais c'est la façon de Dieu de faire. Lisons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Bien-aimé, on vient dire à Jésus que ton ami est malade. Le frère des sœurs que tu aimes beaucoup est malade. Il est écrit qu'il est resté 2 jours encore. Ce qui fait que quand après il vient au chapitre 11, au verset 25, 24, 20, excusez-moi, 21 plutôt. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » On lui dit, « Mais pourquoi tu as traîné comme ça ?» Et c'est ce qu'on est en train de dire à Dieu dans nos cœurs, « Mais pourquoi il traîne comme ça ?» Donc Marthe, pourquoi? Et même les apôtres, quand ils ont compris que Lazare était vraiment mort, ils devaient se dire, « Ah, mais nous on était avec lui quand on l'a informé, il n'était pas encore mort. Pourquoi on n'était pas parti d'un coup ?» Pourquoi il fait des choses comme ça? Je crois que eux aussi devaient murmurer. Pourquoi il fait des choses comme ça? Et nous aussi, même si nous ne le disons pas avec nos bouches, ça peut se manifester par une certaine langueur, une certaine paresse pour les choses de Dieu, fatigue. On n'a plus le goût parce qu'on a l'impression qu'il traîne, il traîne. Et petit à petit, le goût pour le péché vient. Mais Dieu est bon, il ne va pas nous abandonner. Il va nous secouer jusqu'à ce que ses promesses s'accomplissent. C'est ça qui est beau. J'ai beaucoup aimé le fait que le Seigneur a empêché Joseph de passer par l'homme. Il a, malgré cette sorte de faiblesse, le Seigneur a fait échouer ça afin que Joseph vive sa gloire à lui-même direct. Et ce qui est beau, c'est que quand même on faiblit et qu'on est vraiment de Dieu, comme Job, Dieu, à un moment donné, il nous secoue quand même. Il dit non, 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 attends-toi, ce n'est pas fini. Celui qui a fait la promesse est vivant. Il est là, il va nous secouer. Et là, les gens disent à Jésus, mais comment tu as pu rester comme ça? Alors qu'on t'a dit que Lazare avait des problèmes. Jésus pourtant avait prévenu, il avait dit quoi? Cette maladie est pour la gloire de Dieu. C'est comme si Dieu nous disait, nos difficultés sont pour sa gloire. J'aime un chant, mais c'est en anglais. Through it all. À travers tout, j'ai appris à croire. J'ai appris à grandir dans la foi, à travers toutes les difficultés. Et dans cette chanson, le frère dit, si je n'avais pas eu les difficultés que j'ai connues, mais je n'aurais pas su que Dieu est capable de les résoudre. Ah, ben c'est beau cette phrase. Donc il a fallu que j'aie les problèmes pour que je sache que Dieu est capable de les résoudre. Through it all. Dieu veut montrer sa gloire. Il a dit, c'est pour sa gloire. Donc à chaque fois que nous sommes submergés, on doit s'en. Hein, c'est comme si on creusait un trou, on entre dans le trou avec Dieu. Et on prie. Regarde, Seigneur, regarde ce qui m'arrive. On se cache. On est avec lui dans les lieux déserts. J'aime cette phrase qui dit que Jésus-Christ allait prier dans les lieux déserts, seul avec Dieu, en train de lui montrer l'étendue des démons qui sont ligués contre lui, en train de lui montrer toutes les difficultés. Il dit, regarde où tu m'as envoyé. Alors sois avec moi. C'est ainsi que c'est écrit dans le psaume que je voyais le Seigneur toujours à ma droite. C'est le Seigneur qui dit, donc pendant qu'il est dans... Vous savez que Jésus-Christ a été parachuté dans le camp ennemi. Vous savez, une guerre a toujours une ligne de front. Dans cette ligne-là, il y a un camp à gauche, un camp à droite. Mais Jésus-Christ a été pris de son camp, plongé dans le camp adverse. Il a dépassé la ligne de front. Il est dans le camp adverse. Parce que 1 Jean 5, 19 dit que le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Et donc Jésus est dans ce monde-là qui gît sous le pouvoir du malin. Il est là en commando parachutiste. Mais à sa droite, il y avait toujours son papa. Il était là à sa droite. Bien-aimé, on s'enfuit, on se met dans le trou. Donc s'enfuit dans le verbe s'enfuir. Donc creuser un trou entre dedans. Tu es dedans avec Dieu. Et quand tu ressors, à chaque fois c'est la résurrection. La crise vient, tu entres encore, tu pries avec Dieu, tu ressors avec la résurrection. C'est ainsi que notre vie chrétienne est faite de mort et de résurrection. Mort et résurrection. Parce que la pression est grande, l'attente peut être longue, mais le matin vient toujours. Mais dans cette attente qui peut, quand elle devient difficile, cherchons la face de Dieu. Et ressortons fort. Et je bénis le Seigneur qu'il en soit ainsi, parce que sinon on tomberait dans le même orgueil qu'Adam. Si tout était constant dans les miracles et la facilité, le même péché d'origine reviendra faire son travail en nous. Vous savez qu'Adam a péché alors qu'il était bon, alors que tout allait bien pour lui. Donc il doit dire, je suis parfait, je suis fort, alors je peux aller à un stade supérieur, prendre la place de Dieu, c'est ça. Mais nous, les serviteurs d'aujourd'hui, face à ces pressions-là, nous souvenons que nous sommes petits, c'est Dieu qui est grand. Mais nous devons apprendre à laisser Dieu faire. Vous savez, Dieu est tout puissant. Joseph a subi toutes sortes d'injustices, mais il a laissé Dieu faire. Moïse a fui, mais quand Dieu s'est levé, c'était Moïse le vainqueur. Quand Dieu s'est levé, Joseph est devenu premier ministre. Daniel dans la fosse au lion, quelle défaite! Mais quand Dieu s'est levé, Daniel était élevé aussi. Bien-aimés, laissons Dieu faire. Il est tout puissant, il va faire, mais nous devons passer par la mort. Nous devons passer par la fournaise, nous devons passer par la fosse au lion, où nous nous disons, aïe, j'ai perdu. Où nous nous disons, parfois on n'a pas perdu, mais on se dit, je vais vers ma perte. Mais je suis dans la volonté de Dieu. Mais même si on ne se dit pas, je suis dans la volonté de Dieu, tu te dis, mais que puis-je faire? Dieu est tout puissant, c'est lui qui est mon salut. Que Dieu me délivre. Que Dieu me sauve, que Dieu m'encourage. Je ne veux pas m'auto-encourager. Il y en a qui sautent pour s'auto-encourager. Mais dès qu'ils retrouvent la terre, la tristesse revient. Je ne veux pas bricoler ma délivrance. Je ne veux pas bricoler mon avenir. Même si je dois essuyer les critiques, je dois essuyer... Les attaques de mes propres raisonnements. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je suis fini. Tu es ma gloire, ô Seigneur. Le chant qui dit, tu es ma gloire, c'est ça. Tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. C'est ce que David dit. Voilà, bien-aimé. Vous savez, là où je suis formateur, je fais en sorte d'être le plus discret possible. Et je ne me précipite pas à prendre des rôles. Mais dernièrement, quand justement j'ai reçu ce message, entre autres, il y a un groupe que j'ai eu, un atelier que j'ai eu avec des stagiaires. Ils ont commencé à dire, ah, moi, on m'a posé la question, j'ai été clair. Hein. J'ai dit à mon référent que c'était toi qui nous donnais les cours avec, on sent que tu connais et que c'est efficace. Il y a un autre qui dit, ah oui, moi, tout de suite, je suis parti demander que ce soit toi qui me donne. Alors, pourtant, je fais tout pour ne pas m'imposer, pour ne rien, mais le Seigneur montre qu'il agit. Il est tout puissant. On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de se défendre. Laissons le Seigneur faire. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Même quand on a l'impression qu'on nous traite avec injustice, faisons comme Joseph, faisons comme Daniel, faisons comme Mardoché. Laissons le Seigneur faire. Il est tout puissant. Apprenons à ne pas vouloir lui donner des coups de pouce. Il est adulte. Comme Gédéon avait dit, si Baal est Dieu, qu'il se défende tout seul. Pourquoi vous voulez le défendre? Qu'il se défende tout seul. Si nous faisons ce que nous faisons au nom de Dieu, qu'il se défende tout seul. Il y a des moments où on est là, il y a un groupe de gens qui viennent et racontent des inepties. Tu sens la chair qui veut réagir pour dire, mais non, Jésus, ça. Mais tu sens l'Esprit de Dieu qui te donne une assurance que tout est sous contrôle. Tu dis, je laisse faire. Tout est sous contrôle. C'est très important, bien-aimé. Quand Jésus est devant Pilate, il sait que tout est sous contrôle. Il dit à Pilate, je ne vais pas faire beaucoup de débats. Tu n'aurais pas ce pouvoir si mon Père ne te l'avait pas donné. Je reste calme. Voilà. Tout est sous contrôle. Bien-aimé, tout est sous contrôle. Rappelons-nous cela. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce que nous devons faire? Chercher la face de Dieu. Prier qu'il renouvelle nos forces. Prier qu'il nous rassure. Ce n'est pas interdit. Jésus a prié à Gethsémané. Le Seigneur l'a rassuré, l'a fortifié. Mais nous ne devons pas bricoler. Jésus a refusé de bricoler. Il a préféré aller à la croix et attendre la résurrection. Il a accepté la mort. Quand les signes évidents du fait que nous appartenons au Seigneur sont là, eh bien, continuons notre marche. Continuons nos projets, mais ne cherchons pas à aider le Seigneur. Soyons prudents. On risque de tomber comme Saül. Ne cherchons pas à donner des coups de pouce au Seigneur. Il n'a pas besoin de l'aide de l'homme. Il veut utiliser l'homme. Ce n'est pas la même chose. Dans nos maisons, dans tout ce que nous entreprenons, soyons attentifs. Quand nous voyons qu'il y a parfois certains obstacles, c'est peut-être que le Seigneur veut qu'on le laisse faire. Et s'il n'y a pas d'obstacle, nous continuons notre route. Mais s'il y a des obstacles, on réfléchit, on prie. Si le Seigneur dit, tu continues quand même, tu continues quand même. Mais si il te fait comprendre qu'il faut attendre, tu attends aussi. C'est important qu'on apprenne à ne pas aider le Seigneur. Il s'aidera tout seul. Il est tout puissant. On ne peut pas l'aider, sinon il ne serait pas tout puissant. S'il est tout puissant, il n'a pas besoin d'aide. Il veut juste nous utiliser. Ce n'est pas la même chose. Humilions-nous dans sa puissante main, comme dit notre frère. Humilions-nous dans sa puissante main, afin qu'il nous élève au temps convenable. C'est ce que notre frère Pierre dit dans 1 Pierre 5. Humilions-nous dans sa puissante main. Quand nous sommes dépassés, regardons à lui. Discutons avec lui, disons, mais tu es tout puissant, non? Parlons comme Gédéon. Gédéon lui a dit, mais on a appris que tu as fait des exploits avec nos papas, avec nos parents. Seigneur, nous sommes de ta race parce que nous venons de ces parents-là. Disons, Seigneur, nous avons cru en toi. Et même si ça traîne, ce n'est pas un problème. La mort de Lazare a traîné 4 jours. Il est ressuscité parce que le Seigneur est tout puissant. Jésus a été un exemple pour nous. Imitons-le. Jésus a fait 30 ans. 30 ans alors qu'il connaissait tout. Il a attendu pour entrer dans son ministère. Il a attendu. Mais en 3 ans, il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Ne précipitons rien. Ne bousculons pas le Seigneur. Le Seigneur, c'est ce qu'il a à faire. Faisons-lui confiance et sachons le laisser faire au nom de Jésus. Amen.